Alors à chacun, à chacune, bienvenue en 2025. C'est inouï, le 21e siècle a déjà 25 ans. Mais détendez-vous, car en 1h30, eh bien, nous n'aurons pas le temps de vieillir. Et vous saurez pourquoi, bien avant la fin du temps passé ici, même ce matin. 2025, c'est peut-être tôt pour en parler, mais ce n'est sans doute pas trop tôt pour s'y préparer. Aujourd'hui, si la crise actuelle ne nous interdit pas de regarder en arrière, bien au contraire, elle ne doit pas non plus fermer les soupapes de notre attention pour imaginer notre région Rhône-Alpes en 2025. Et vous avez fait le choix donc de découvrir ou compléter notre information, votre information, en explorant des scénarios élaborés par le Conseil économique et social régional de Rhône-Alpes, le CESR, à explorer donc les territoires du futur. Et notre ambition, celle des participants à cette tribune, eh bien, c'est de vous présenter les travaux de prospective réalisés il y a donc peu de temps et dont nous vous rendons témoin maintenant avec nos invités présents à sur cette tribune. Prospective économique et sociale sur un territoire, pour en parler, il y a tout d'abord le président Bruno Lacroix, président du Conseil économique et social Rhône-Alpes. Depuis 2004, réélu en 2007, vous êtes chef d'entreprise dans un secteur où vous êtes, c'est la société Aldès, vous êtes leader européen dans des matériels de ventilation mécanique pour le bâtiment. Et vous venez d'être récompensé, félicitations, il y a quelques jours à peine à Paris pour la qualité de la gestion de l'entreprise qui est la vôtre. À votre gauche, puisque nous allons continuer ainsi, Monsieur Vincent Le Callennec, vous êtes directeur régional de l'INSEE. Vous êtes également administrateur de cette grande maison nationale de la statistique. Vous êtes diplômé de l'École nationale de la statistique et vous êtes également polytechnicien. À ma droite, Monsieur Bernard Pouillet, vous êtes également membre du Conseil économique et social, deuxième vice-président. Vous êtes l'homme de la prospective, puisque vous dirigez une commission. Et vous êtes, avant toute chose, un universitaire, spécialiste des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, auteur de nombreuses publications sur ces questions. Monsieur Tugru-Latamer, vous êtes doyen de la faculté, EM Lyon, École du management de Lyon. Vous êtes un spécialiste du changement, on peut présenter les choses ainsi peut-être.
Exact.
Et vous êtes reconnu pour la qualité de vos travaux, de vos recherches, tant sur le plan français, européen, et vous êtes très souvent sollicité aux États-Unis. Alors comment allons-nous procéder? Nous sommes là jusqu'à 10 heures environ ce matin, et nous vous proposons deux temps. Un premier temps au cours duquel une présentation sera faite, chacun a un domaine de compétence pour en parler, sur ce travail de définition de l'avenir en Rhône-Alpes. Et puis dans un second temps, sur la base de ce que vous aurez entendu, compris, commencé à analyser, eh bien, nous vous proposerons un échange des plus directs, des plus simples, avec chacun des intervenants à cette tribune. Alors, sans plus tarder maintenant, je voudrais donner la parole à Bruno Lacroix, qui est l'inspirateur, en tant que président du CSR, de cette démarche tout à fait originale, en tout cas inédite, dans notre région. Monsieur le Président.
Merci. On verra que l'inspiration remonte à pas mal de temps déjà et que nous l'avons enfin réalisée. Peut-être, pour commencer, quelques mots de présentation de ce qu'est le CESR, parce qu'en dehors de quelques initiés que je repère dans la salle, je pense que la plupart doivent ignorer ce qu'est un Conseil économique et social régional et à quoi ça sert. Pour rappeler qu'une région est constituée de deux assemblées, une assemblée politique élue et décisionnaire qu'est le Conseil régional, et aux côtés de cette assemblée politique élue, une deuxième assemblée consultative qu'est le Conseil économique et social. Les membres du Conseil économique et social, au nombre de 116, sont désignés par des organisations. Donc ce ne sont pas des membres élus, ils sont désignés par des organisations. Nous sommes découpés par nature en trois collèges. Premier collège, le monde des employeurs. Donc ce sont ces organisations qui désignent leurs représentants. À titre d'exemple, je suis moi désigné par la branche de la métallurgie. Le deuxième collège, à parité avec le premier, représente le monde des salariés. Et là, les désignations sont faites par les grandes centrales syndicales qui sont en nombre d'après les statistiques électorales. Le troisième collège représente les organismes divers et le monde associatif. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on y retrouve le représentant des grandes écoles ou des universités, qui est Bernard Pouillet, ici présent à titre d'exemple. En tout, ce sont plus de 60 organisations régionales qui sont représentées. Et quand on essaye de remonter ce que représentent ces 60 organisations régionales, on s'aperçoit que ceci recouvre plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont représentées dans ce Conseil économique et social, assemblée donc socio-professionnelle, par les 60 organisations qui y sont. Donc c'est la société civile dans toute sa diversité, les partenaires sociaux, le monde associatif, qui est présent dans cette organisation. Le Conseil économique et social est, par nature, le partenaire privilégié du Conseil régional. C'est à ce titre-là un lieu de réflexion et d'inspiration pour le Conseil régional, mais c'est aussi un lieu d'échange, un lieu d'anticipation au bénéfice de tous les décideurs de la région. On peut estimer aussi, il se dit, que le CESR est une force de proposition qui facilite les échanges et la concertation. De ce fait, notre CESR se doit en permanence d'anticiper et en préparant les décisions et les orientations du futur. Donc, par nature, nous sommes tournés vers l'avenir, étant amenés à éclairer les choix de la région à travers les recommandations que nous faisons. Et pour être un peu plus précis sur les différents travaux, la nature des travaux que nous conduisons, nous sommes amenés à donner des avis obligatoires sur tout ce qui touche, je fais court à la finance, budget, ex-contrat de plan qui sont devenus contrats de projet, État-région, utilisation des fonds européens ou les schémas régionaux. Nous travaillons également sur saisine du président du Conseil régional, mais nous pouvons travailler sur auto-saisine de sujets qui nous semblent être importants de prendre en compte et de porter à la connaissance de l'Assemblée du Conseil régional. Alors la prospective est, j'allais dire, peut-être une deuxième nature dans ce Conseil régional. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous faisons sans doute de la prospective sans le savoir depuis bien longtemps. Néanmoins, Paul Damingeon, qui a été mon antéprédécesseur à la présidence de ce Conseil économique et social, avait déjà initié une démarche de prospective. Néanmoins, elle n'était pas encore structurée comme nous l'avons fait. Et c'est en 2007, donc avec la nouvelle mandature que nous avons démarrée il y a un an, que le Conseil économique et social a décidé la mise en place d'une section de prospective. Les textes nous laissent le choix entre une commission et une section de prospective. Nous avons choisi la section de prospective qui a le gros intérêt de pouvoir être constitué de 2/3 de membres internes au Conseil économique et social, mais 1/3 de membres externes au Conseil économique et social. Et vous en avez deux représentants qui sont ici à cette tribune, qui font partie de ces 7 personnalités extérieures qui sont venues rejoindre les travaux de cette section prospective. Alors, pourquoi la création de cette section? D'abord, nous avons voulu que elles permettent de diffuser la dimension prospective à l'ensemble des commissions de notre Conseil économique et social. Nous avons voulu également initier un certain nombre d'ouvertures par les rencontres de prospective qui se déroulent en gros une fois par trimestre et qui sont ouvertes à l'ensemble de la société civile. Ceci permet à un expert de présenter sa contribution en matière de prospective et puis d'engager le débat et de nourrir les réflexions du Conseil économique et des acteurs régionaux. Et puis enfin, l'objet a été de mener des travaux propres à la section prospective et ainsi de nous tourner vers les chemins du possible. Le premier travail réalisé par cette section est à la fois ambitieux et modeste, d'autant plus que nous étions un peu contraints dans un calendrier court d'une année pour nous caler sur les objectifs correspondant à un timing du Conseil régional dans ce cadre-là. Donc nous avons choisi de travailler en offrant des visions plausibles pour les Rhônes-Alpins, à un horizon qui, au fond, est à la fois lointain et proche, puisqu'il s'agit de 2025. Il n'y a plus que 17 ans qui nous séparent de 2025, donc c'est très bientôt. Mais je vais vous le faire en sens inverse. 17 ans en arrière, ça n'était que 1991. Et 1991, ça ne doit pas vous sembler si loin. Beaucoup de choses étaient identiques, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Parce que 1991, c'était avant la crise de 93. Dans quelques années, on dira que c'était avant la crise de 2008. 2007, 2008, 2009, je ne sais pas très bien combien de temps elle va durer. 91, c'était avant la généralisation du courrier électronique et l'accès au web. Je ne sais pas parmi vous combien, en 1991... utilisait déjà le courrier électronique ou accéder au web. Je sais que dans notre entreprise, la généralisation des micro-ordinateurs portables et l'utilisation du courrier électronique interne a démarré en 1993. Avant 1993, il n'y avait que quelques postes fixes dans l'entreprise, donc c'était encore très peu diffusé. 91, c'était avant le renforcement de la mondialisation et on mesure en fait tout ce qui s'est passé au cours de ces années par l'ouverture à la mondialisation. C'était avant le 11 septembre et la destruction des Twin Towers. C'était avant la panne de la construction européenne. C'était avant la Coupe du monde de football ou les JO de Pékin qui ont une autre dimension. C'était avant la crise des subprimes et ses conséquences en cascade. Avant la montée, le pic du pétrole et sa redescente aujourd'hui. Tous événements qui ont changé notre monde sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan géopolitique. Alors depuis cette date, des choix forts ont été engagés en Rhône-Alpes, la poursuite de la décentralisation, le soutien aux technologies et à la recherche, la création des pôles de compétitivité, la mise en place d'une politique volontariste en matière de transport, avec les TER en particulier. À l'aune de ces exemples, pour 2025, nous devons regarder les visages possibles de Rhône-Alpes, explorer les territoires du futur, quelles évolutions pour demain, quels nouveaux chocs, quelles chances pour Rhône-Alpes, mais aussi quels risques. Donc ce travail ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension du monde et de notre région, à explorer ce qui peut advenir en Rhône-Alpes et ce qui peut être fait, quelles politiques peuvent être engagées, quelles stratégies audacieuses sont à mettre en œuvre. Ce rapport, c'est aussi une posture nouvelle pour notre Conseil économique et social, qui sera sans doute appelé à développer dans toutes ses productions une vision prospective. Cette posture d'ensemble, c'est être en position de vigie, en situation d'alerte et d'écoute permanente, et être un acteur de prospective appliquée. Cette démarche de prospective appliquée n'est pas ésotérique, pas plus qu'elle n'est une prophétie millénariste ou une science des possibles. Elle nous rappelle presque modestement que les futurs sont tous possibles, le pire comme le meilleur, mais qu'il est aussi possible d'éviter le pire dès lors qu'on se donne les moyens d'aller vers le meilleur. C'est un exercice difficile. La section prospective a bien eu conscience parfois de mutiler ou de réduire la réalité, en particulier du fait de la complexité croissante des informations, si nombreuses qu'il est difficile d'en faire ressortir l'essentiel. Conscient de la complexité croissante de l'économie, des organisations, des structures et parfois des hommes. Mais aussi parce qu'il faut prendre en compte des éléments comme les tendances lourdes, les signaux faibles ou les éléments de rupture. Difficile de se retrouver au milieu de tout ceci. La prospective, c'est donc face à cette complexité, face au temps qui s'accélère, s'imposer une pause pour mieux poser les problèmes. La prospective, c'est savoir qu'on se trompe, car il ne s'agit pas de prévision, mais c'est vouloir anticiper sans donner les moyens. Quand il est urgent, c'est déjà trop tard. C'est mettre en évidence des risques, des menaces et des opportunités pour Rhône-Alpes. J'allais dire, on est meilleur lorsqu'on sait contre quoi on se bat. La prospective, c'est aussi, bien entendu, contribuer à envisager des leviers, des politiques, des stratégies. Au moment où l'on parle de gouvernance, la prospective peut contribuer à se doter d'un gouvernail, pour une gouvernance meilleure. Vous le constaterez, ce sont des points essentiels pour demain. La gouvernance doit être le fait d'hommes et de femmes visionnaires, portant un projet et rassembleurs. Après ces quelques considérations et en guise de conclusion, je ne peux que citer Sénèque en disant « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».
Monsieur Lacroix, merci. Vous venez de nous dire que la prospective, c'est effectivement, comme chacun sait par ailleurs, mais vous l'avez explicité dans un cadre régional, c'est l'étude des avenirs possibles. Tous les possibles, ce possible qui sert de base à la réflexion politique, pour savoir comment vous souhaitez aider les décisionnaires politiques à prendre des décisions qui engagent leur responsabilité face à l'avenir. Je propose maintenant à M. Tugrul Atamer de nous présenter un peu la méthode de travail qui a été la vôtre pendant quelques mois cette année, en 2008.
D'accord, merci bien. Et permettez-moi d'abord de dire bonjour à toutes et tous. Et ce fut un grand plaisir pour moi de faire partie de cette section prospective comme membre externe. Et nous avons travaillé à 22, 15 membres internes et 7 membres externes. Et c'est un travail réparti sur une année à peu près. Et on a fait de nombreuses séances et évidemment très interdisciplinaire, et cela fut un enrichissement extraordinaire. Donc je voudrais remercier M. Bruno Lacroix et M. Pouillet et pour m'avoir invité et pour m'avoir offert cette possibilité d'enrichissement. Donc vous avez compris, output, le résultat d'une démarche comme ça, en fait, c'est de déboucher, et c'est ça ce que vous attendez impatiemment, des scénarios possibles, l'avenir possible pour notre région Rhône-Alpes. Et d'entrée du jeu, je vais vous dire, nous avons dessiné collectivement le résultat, 5 avenirs possibles, et dans le cadre de 5 contextes mondiaux, européens et nationaux possibles. Et M. Pouillet va le présenter avant. Mon objectif, c'est juste de vous proposer, de vous donner quelques idées sur la méthode qu'on a suivie, et aussi, peut-être comme spécialiste du stratégie d'entreprise dans un autre domaine, on a l'habitude de le faire, la prospective, de donner quelques messages sur l'utilité de prospective, parce que il y a une résistance par rapport à cette démarche, dans le monde économique, chez les décideurs. Et cette résistance, parfois, se résume à quelques phrases qui est de bon sens, d'ailleurs. Style, à 6 mois, on se trompe tellement sur le prix de baril, et c'est vrai. Il y a quelques mois de ça, on nous annonçait un baril à $200. Aujourd'hui, on est descendu en dessous récemment de 50. Attendez, on se trompe du simple au quadruple et vous, vous pensez à 15 ans, 20 ans, 30 ans de faire des prospectifs. Non, ce n'est pas sérieux. On nous objecte. Et les responsables d'entreprise pour lesquels moi j'ai l'habitude de faire des scénarios d'environnement, de l'évolution des secteurs d'activité télécommunication, énergie, pour éclairer leurs décisions stratégiques, ils me disent, attendez, on se trompe à 6 mois sur notre budget de 30%, vous voulez nous offrir des visions sur 15 ans, c'est pas sérieux. Bien. Et effectivement, dit comme ça, ça peut paraître, la démarche peut paraître un peu fantaisiste, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il ne s'agit ni de prévision, je souligne ça véritablement, et ni de lecture de l'avenir dans une boule de cristal. Je me souviens très très bien d'un chef d'entreprise qui m'avait dit, mais monsieur, si on devait faire la prospective, j'aurais appelé un astrologue. Et non, ce n'est pas l'astrologie, et c'est une science de l'intelligence collective et de la complexité que M. Lacroix a bien définie. Et je donnerai quelques exemples du bien fondé. Donc, en fait, on explore tout simplement en identifiant des variables. Des variables, qu'est-ce qu'on appelle une variable ? Une variable, c'est un événement qui a une forte motricité, un fort impact sur l'évolution d'un phénomène donné. Et notre phénomène ici, c'est l'évolution de la région Rhône-Alpes dans les 15-20 ans à venir. Et ça peut être l'évolution d'un secteur d'activité ou l'évolution de l'enseignement supérieur en France et ou au niveau du monde, dans les 15-20 années, quels seront les événements majeurs qui risquent de survenir et qui risquent d'avoir un fort impact. Et parmi ces événements, il y a des événements qui ont des natures d'être tendance lourde, c'est-à-dire leur probabilité d'occurrence est très très élevée, presque ces événements à 20 ans sont déjà là, et encore même sur ces événements, on peut se tromper. Les dépenses de santé, c'est une tendance lourde, la participation des femmes à la vie active, c'est une tendance lourde. Pour que ces tendances lourdes soient remises en cause, il faut des grosses, grosses ruptures improbables. Ça, ce sont des tendances lourdes. Les événements majeurs qui ont caractéristiques tendances lourdes, donc, sont à peu près présents dans tous les scénarios. En revanche, il y a des événements qui, s'ils survenaient, ils auront des impacts très, très forts sur l'évolution. Il n'empêche que leur probabilité d'occurrence est très incertaine. Je ne dis pas très faible, est très incertaine. On ne sait pas. Si ça se produit, ça ne se produit pas, parce que, par contre, si on sait, si cet événement se produisait, il aura un fort impact et il créera des discontinuités. Et c'est autour de ces éléments, essentiellement, et de leur enchaînement qu'on constitue véritablement les scénarios possibles, les tendances lourdes étant un peu partout présentes. Ensuite, on peut effectivement s'amuser à faire des scénarios de rupture, si de très grosses surprises survenaient. Mais nous n'en sommes pas là. Et ça devient à ce moment-là un peu fantaisiste, ces hypothèses. Mais à des plus hauts niveaux, effectivement, quand on est au niveau du gouvernement américain et du gouvernement français, on peut faire effectivement ces genres de spéculations. Voilà la philosophie. Alors, à quoi ça sert encore une fois? Je voudrais dire une chose. Que l'on veuille ou non, lorsqu'on prend des décisions stratégiques, que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau d'un gouvernement ou d'un ministère, qu'appelle-t-on décisions stratégiques? Ce sont des décisions qui donnent lieu sur des investissements lourds. Investissements sur les formations sur l'université, l'investissement sur des infrastructures, ce sont des investissements lourds, assez irréversibles. Lorsqu'on se trompe là-dessus, effectivement, ça coûte très cher à la société. Lorsqu'on prend ces genres de décisions, que l'on veuille ou non, on émet un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution des phénomènes. Que l'on veuille ou non. Et ces hypothèses et ces postulats donc forment en fait le socle même de prise de décision. Et généralement, l'ensemble des décideurs, sans se rendre compte, ils font la prospective. Puisque derrière leurs décisions se cache toujours un ensemble d'hypothèses plus ou moins cohérentes sur l'avenir, l'évolution de leur secteur d'activité ou de leur activité. Alors nous pensons qu'il vaut mieux que ces hypothèses ne restent pas implicites. mais ça soit explicité et ça soit conscient. Pour quelle raison? Pour deux raisons. Un, premièrement, et est-ce que ces ensembles d'hypothèses forment un tout cohérent? C'est un test, explicitation, un texte par rapport à un contexte sur lequel on n'a pas de contrôle nécessairement. Donc, un scénario sur le contexte, un scénario sur, en explicitant nos hypothèses, nous permet de faire un test de cohérence de l'ensemble des hypothèses, que bien vérifier que les décisions prises se fondent sur un ensemble d'hypothèses qui font un scénario cohérent. Et deuxièmement, deuxième utilité, et c'est pourquoi il faut le faire, et il faut expliciter car il n'est pas sûr que cet ensemble d'hypothèses qui forme un scénario implicite va se produire. C'est un avenir possible parmi d'autres. Et le fait de l'expliciter nous permet de penser à d'autres scénarios alternatifs, par conséquent, d'être prêt à des ajustements stratégiques dans l'avenir. Et de veiller aussi sur des variables sur lesquelles il y a des incertitudes, être prêt à remettre en cause des décisions que nous avons prises et avoir des scénarios de rechange. Si le scénario qui vient sont particulièrement se produit défavorable, ça veut dire qu'il y a des menaces. À la limite, il pourrait avoir des crises. Et la cellule de crise, un ajustement structurel et stratégique est prêt, le scénario, puisqu'on a réfléchi avant. Par contre, si l'avenir tend vers un avenir meilleur que prévu, il y a des opportunités supplémentaires, il faudrait qu'on soit prêt, par des ajustements stratégiques, à saisir ces opportunités aussi. Voilà, si vous voulez faire la prospective et prendre les décisions sur la base des bases à venir possibles, offre des flexibilités, des consciences que l'avenir n'est pas donné, et être prêt, véritablement, de faire des ajustements à tout moment. Bon, ceci étant maintenant, quelle était la méthode que nous avons suivie? Et je voudrais vous schématiser. En 5 étapes, nous avons travaillé, et sous l'animation de François de Jouvenel, de l'association Futurible, car ces genres de démarches, comme il s'agit de mobiliser une intelligence collective et 22 personnes qui constituent, c'est ce qu'on peut appeler panel d'experts. Panel d'experts, puisque ce sont des personnalités qui viennent des différents secteurs d'activité, qui ont des différentes compétences dans les domaines économiques, sociaux, démographiques, géographiques, etc., etc., culturels. Et par conséquent, la démarche consiste à mobiliser leurs connaissances pour, dans une première étape, identifier, c'était la première étape, les variables. Les variables, c'est-à-dire ces événements qui auront un fort impact sur l'évolution de la région Rhône-Alpes, et d'ailleurs n'importe quelle région de la France, mais particulièrement Rhône-Alpes. Et le panel en question a identifié 20 variables, dont 9 variables de contexte international, européen et national, et 21 variables internes à la région, c'est-à-dire plus les variables sont des variables internes, plus on pourrait penser que les acteurs décideurs de la région ont une certaine prise sur ces variables, un certain contrôle. Attention, là-dedans, il y a des variables qui sont d'action, il y a des variables de structure. Sur des variables de structure, on a peu de prise. Sur des variables d'action, on en a beaucoup plus de prise. Voilà. Donc, c'était la première étape. On a identifié les 30 variables sur la base de quelles, véritablement, l'avenir va se jouer essentiellement. Et deuxième étape ensuite, nous avons déduit 30 fiches variables. 30 fiches variables, c'était quoi? Pour chacun des variables, nous avons fait une définition rigoureuse, consensuelle, au sein de l'équipe d'experts. Nous avons identifié les indicateurs d'évolution. Nous avons établi une rétrospective d'évolution de la variable depuis 20 ans. Dans les 20 dernières années, cette variable commence à évoluer. Et ensuite, nous avons établi 3 ou 5 hypothèses, en quelque sorte, scénario déjà, au niveau de chaque variable événement, 3-5 hypothèses d'évolution de la variable à l'échéance 2025. Donc, c'était deuxième étape. Ensuite, troisième étape, vous pouvez le voir là-dessus. Et nous avons regroupé ces 30 variables en 7 composantes, et autour desquelles il était possible de construire déjà des micro-scénarios. Et ces 7 composantes sont un contexte international. Deuxième composante, c'est contexte européen et national. Et les cinq autres composantes, c'est plutôt des composantes relatives directement à l'évolution de notre région, qui sont organisation du territoire, cadre de vie, hommes et bien sûr les femmes, hommes et femmes, activité et gouvernance. Ensuite, quatrième étape, à partir de ce moment-là, nous avions à la fois l'ensemble des variables, une première synthèse intermédiaire, on était prêt à construire effectivement des scénarios. Nous avons déduit cinq scénarios globaux du territoire et cinq scénarios de contexte qui seront très bientôt présentés par M. Pouillet. Et la fin de l'exercice est peut-être la plus créative et la plus délicate aussi à ce niveau, identifier les enjeux et des leviers permettant la transition entre les scénarios. Ça veut dire quoi, les scénarios? Les avenirs possibles, aussi loin les uns des autres, il y a des possibilités de transition. On sait que l'avenir ne ressemblera à aucun de ces scénarios, puisque c'est toujours une interaction entre les actions, les décisions et les actions des acteurs, l'interaction entre les acteurs et l'interaction entre les actions des acteurs, les variables de structure et de contexte, qui fait que nul ne maîtrisera. De ce point de vue, je me révolte, je m'insurge toujours par rapport à des scénarios de complot. Il y aurait de superpuissants décideurs quelque part dans le monde seront capables de mettre en scène en fait un scénario et de faire réaliser, aussi puissants qu'ils soient les acteurs et les décideurs, ne seront jamais capables, si vous voulez, de façonner et de structurer un scénario quelconque. Et le scénario réalisé, ce serait toujours une résultante de différentes possibilités et des rapports de force entre des acteurs et aussi les interactions entre les décisions des acteurs et des facteurs que l'on ne contrôle pas, tels que l'environnement climatique, etc., etc. Bien, par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier ces enjeux, ces incertitudes sur lesquelles il faut des vigilances, particulièrement des vigilances, à la limite une veille stratégique permanente, qu'on soit sur lequel présent à faire des ajustements. Et ensuite, des leviers d'action, proposer des leviers d'action véritablement pour façonner notre avenir, pour maîtriser pour autant que possible notre avenir. Voilà, Monsieur Pouillet, donc je pense que nos auditeurs sont maintenant impatients de voir quels sont les cinq futurs possibles.
Alors, ils le sont, et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner, Monsieur Pouillet, la parole tout de suite. Effectivement, vous parliez d'interaction entre les différents acteurs. Il s'agit là d'une interaction parfaitement maîtrisée de l'un à l'autre, effectivement. Et il est urgent maintenant de nous présenter les cinq scénarios. Alors, on va aller à l'essentiel, effectivement. Ça n'était peut-être pas si important que cela, mais je vous invite maintenant à prendre connaissance des différents scénarios établis donc sous la houlette de M. Pouillet. Merci.
Bien, vous nous dites si vous entendez ou pas, là.
Voilà.
C'est bon. Merci. Les scénarios, je vais vous les présenter un peu brut de décoffrage, sans précaution. Je vous renvoie sur le petit 4 pages, m'excuse. Je suis porté par les problèmes du temps. Je vous renvoie sur le petit 4 pages qui résume nos scénarios. Je vous les livre de manière un peu brutale, mais finalement, je suis rassuré, on vous a dit, hein, aucun de ces scénarios ne se réalisera comme nous avons dit qu'il se réaliserait. Et on vous a dit aussi que, puisqu'on se trompe sur le prix du baril à 2 mois, vous aurez la plus grande bienveillance à l'égard de scénarios qui essayent de travailler à 15, 20 ans. Hein. Nous avons donc travaillé dans une double optique. Quels peuvent être les scénarios auxquels on peut songer pour Rhône-Alpes et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces scénarios? À quoi ça sert d'avoir fait cet exercice? Donc, c'est les deux points que je reprendrai. Les scénarios, ce sont des scénarios territoriaux, régionalisés, rhône-alpins, et puis ce sont des scénarios de contexte. 5 scénarios territoriaux qui sont finalement 5 récits de futurs possibles qui peut-être se réaliseront au moins, espérons-le, un tout petit peu partiellement pour chacun d'entre eux. Premier scénario, nous l'avons intitulé « Cap sur l'intelligence et la cohésion ». C'est un scénario qu'on qualifie entre nous de rose, c'est celui qu'on voudrait bien voir advenir. C'est le scénario où finalement les décisions qui sont prises maintenant ont été porteuses d'effets. L'investissement majeur dans la recherche, dans l'économie de la connaissance, dans les pôles de compétitivité, dans les écosystèmes, tout ça, ça a marché. Et on a une région qui a fait des avancées décisives dans toute une série de secteurs, les nanobio, les biotechnologies, les infotechnologies, les technologies cognitives, etc., etc., sans pour autant sacrifier son socle industriel traditionnel et en faisant travailler conjointement et de manière efficace le système de recherche, le système de formation, le système de production. En matière de formation, d'ailleurs, on a dégagé des formations en faveur des élites, mais on s'est préoccupé de l'ensemble du système de formation. C'est-à-dire qu'on a aussi eu une attention à l'apprentissage, à l'alternance, à la formation professionnelle du second degré, etc. Tout ceci est possible parce que nous avons une région qui, en tant que collectivité territoriale, est une région pilote, est une région chef de file. Cette idée du chef de fila, qui existe actuellement, au moins dans les textes de droit, trouve sa réalité, trouve son application, même si on a maintenu un certain nombre de collectivités locales. On n'a pas encore, on ne peut pas dire aujourd'hui quels seront les choix qui seront faits par la commission Balladur, mais enfin, ces choix auront été faits. De toute façon, on aura dégagé une collectivité régionale qui fait l'ensemble les autres. Et ça, c'est essentiel parce que cette collectivité aura finalement les moyens d'un projet, les moyens administratifs, les moyens financiers. Et que pour autant, les autres collectivités, dans le respect du principe de subsidiarité, auront elles aussi une capacité à agir tant sur le plan administratif que sur le plan financier. Toujours dans le scénario rose, c'est l'ensemble des territoires qui sont portés par ce développement. Et cette excellence qui a pu se jouer dans les domaines économiques et scientifiques, elle rencontre un véritable projet social, un véritable projet de cohésion sociale. Il n'y a pas de retard pris entre les territoires de Rhône-Alpes. Il n'y a pas de clivage ou de segmentation trop forte entre les catégories socio-professionnelles, entre les catégories sociales, tout simplement. Donc on est dans un système harmonieux où ça marche du côté de l'économie et ça marche du côté de la cohésion sociale. Deuxième scénario, nous l'avons intitulé « Chacun pour soi ». Et là, on est dans un scénario où il y a quelques filières d'excellence peu nombreuses qui ont tiré leur épingle du jeu. Les pôles de compétitivité ont marché, mais seulement certains d'entre eux. Et le scénario en question, si nous l'intitulons « Chacun pour soi », c'est simplement ce que, à part là où ça marche, et ça marche dans certains secteurs très précis, par exemple, on peut penser au secteur des micro-nanos, on peut penser au secteur des énergies renouvelables. Ça marche dans les aires métropolitaines qui portent ces secteurs-là. Mais ce n'est pas l'ensemble du territoire rhône-alpin et ce n'est pas l'ensemble de l'économie rhône-alpine qui est tirée par ces succès. Et même, on peut peut-être penser que dans d'autres filières sont en panne, ne serait-ce que parce qu'il y a une montée des réticences de l'opinion publique à l'égard des risques de certaines innovations ou de certains progrès technologiques. Donc, on est dans un système de société individualiste, de société duale. Il y a des secteurs qui marchent, qui s'en tirent. Il y a des gens qui travaillent dans ces secteurs qui marchent et qui s'en tirent. Et les autres, font face à la situation comme ils le peuvent. Et notamment, la région, ayant mis l'essentiel de ses moyens, qui sont peu nombreux, dans un système de décentralisation peu avancé, la région, finalement, ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'une action ciblée sur des dépenses du cadre de vie. Et dans ce scénario-là, on s'aperçoit que il n'y a pas de véritable attention à la cohésion sociale, qu'il y a des risques de mise en cause de développement de la précarité, des retards de certains territoires, des retards de certaines populations et des collectivités locales à la base qui n'ont pas véritablement les moyens de leur action. Troisième scénario, je dis que c'était brutal, ça l'est. Troisième scénario, le spectre du décrochage. Là, on est dans le scénario noir-gris. Un essoufflement industriel et humain conjugué à une absence de vision stratégique pour Rhône-Alpes. Rhône-Alpes subit un déclassement en matière industrielle, notamment son socle industriel se délite. Les services aux industriels, dépendant notamment de ce socle industriel, n'ont pas pris le relais. Les emplois qui se développent sont plutôt les emplois qui sont liés aux services à la personne, dans une société qui, certes, en Alpes, vieillira moins qu'ailleurs, monsieur le Canolec nous le dira peut-être tout à l'heure, mais qui, quand même, a besoin de services à la personne, de services aux personnes dépendantes, etc. Les pôles de compétitivité n'ont pas convaincu, les écosystèmes n'ont pas véritablement vu le jour. Il y a un développement de micro-entreprises et d'un tissu associatif qui développe des activités pour les services aux personnes et notamment la dépendance. Il y a un statu quo en matière de concurrence entre les collectivités locales. La décentralisation n'a pas franchement évolué. L'État a poursuivi son désengagement. Et la région, c'est un risque qui la guette et peut-être une tendance perceptible. La région s'est engourdie dans un fonctionnement bureaucratique. Donc, beaucoup d'efforts, mais des efforts un peu dispersés, et une société rhône-alpine en panne. Quatrième scénario, le pari pour un secteur leader. Alors là, on est dans un cas de figure où il y a bien une politique industrielle qui est portée par la région, mais qui se centre sur un secteur économique, un secteur de recherche, je dirais, relativement large, qui, c'est plus seulement une filière, qui se situe un peu au croisement des biotechnologies, des micro-nano, etc. Et ce secteur économique, finalement, va être en situation de porter une part importante du développement, voire une part essentielle du développement économique de la région. On est dans un cas de figure où, finalement, la région existe, développe une politique volontariste en disant on met l'accent sur un grand projet de développement dans des secteurs porteurs d'avenir et on développe une politique d'aménagement du territoire destinée à servir ce grand projet de développement. Donc, on est bien dans une région qui fait ses choix et dans une région qui va essayer de situer véritablement Rhône-Alpes dans la compétition internationale. Avec cette idée qu'il faut chasser en meute, pour reprendre l'expression, sur un objet qui est un objet suffisamment bien choisi pour porter l'ensemble du développement. Et ça se traduit par un effort de hiérarchisation et d'organisation du territoire autour des grandes métropoles, c'est-à-dire Lyon, Grenoble, Genève, et ça se traduit sur une organisation de tout ce qui est système d'infrastructure, système de mobilité, précisément pour favoriser cela. Mais là encore, on peut penser qu'il va y avoir, ou il y a un risque très réel, d'une sorte de précarité qui va être persistante dans un certain nombre de territoires et vis-à-vis de certaines populations qui seraient à l'écart de ce développement fort concentré sur les aires métropolitaines. Le cinquième scénario, nous l'avons intitulé « L'individu souverain ». Et c'est le seul scénario qui n'est pas véritablement une entrée économique. L'individu souverain, c'est un peu la démocratie d'opinion. C'est l'opinion publique qui a pris le pouvoir. C'est les collectivités et des élus qui n'agissent qu'en réaction au mouvement de l'opinion publique. C'est l'individu NIMBY, Not in my backyard, qui fait prévaloir la défense d'une tranquillité de proximité. C'est la prééminence du local qui impose l'organisation du territoire. Et on se rend compte qu'on règle énormément de questions. Enfin, quand je dis qu'on règle des questions, ce n'est pas sûr. On se concentre sur un type de questions qui sont les questions du cadre de vie. Est-ce qu'on les règle? Je dis, c'est pas sûr, parce que la démocratie d'opinion est une démocratie où les prises de décision sont particulièrement laborieuses, voire difficiles. Et nous, en tant que Conseil économique et social, nous sommes attentifs dans chacun de nos scénarios, mais dans celui-là, c'est particulièrement net, à savoir comment on complète la démocratie représentative par la démocratie participative et par l'expression de la société civile organisée. Comment est-ce qu'on est capable d'équilibrer les différentes formes d'expression de la démocratie? Or là, dans ce scénario-là, on est un peu dans un scénario, je dirais, du tout démocratie participative au détriment des autres formes d'expression. Des filières d'excellence, mais dans des domaines très spécialisés, qui ne tirent pas l'ensemble de l'économie. Alors voilà, ce sont ces cinq scénarios, et je vous ai dit qu'ils étaient pour chacun d'entre eux discutables, et c'est l'intérêt de pouvoir avoir cette confrontation. Vous les relirez dans le 4 pages, voire dans le document plus complet, en appréciant la cohérence. À côté de ces scénarios, nous avons élaboré des scénarios de contexte. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui va se passer en termes d'évolution européenne, en termes d'évolution internationale. Et je dois dire que ces scénarios de contexte, nous les avons élaborés pour l'essentiel au mois de mai, et que finalement, là, pour le coup, on est assez contents de nous, si je puis dire, parce qu'on préférait ne pas l'être. Bien des choses que nous avons vues à ce moment-là se vérifient dans la crise actuelle. Peut-être aussi parce qu'il y avait, quoi qu'on en dise, beaucoup plus d'éléments d'analyse qui pouvaient laisser penser que cette crise allait se produire comme elle se produit. Cinq scénarios, je passe rapidement. Le marché roi, une Europe libérale dans un environnement de croissance non régulé et à risque élevé. Un monde multipolaire, à caractère instable, incertain, sans véritable régulation. Le système financier est secoué par des crises fréquentes, imprévisibles. Une Europe dans ce système-là néolibérale qui mise sur sa compétitivité, mais dans un cadre budgétaire contraint, qui effectue des arbitrages difficiles, avec notamment une action prioritaire sur la mobilité des hommes et des emplois. Le scénario 2, qui est plus réjouissant, si je puis dire, une Europe dynamique dans un monde multipolaire, un monde multipolaire où s'affirment les pays émergents, mais une volonté du monde occidental de garder son leadership en comprenant que ça n'est possible qu'à travers une régulation économique et monétaire. Et c'est le scénario où un nouveau Bretton Woods jette les bases d'une architecture financière, bancaire et cambière assainie. L'Union européenne s'organise autour du principe de subsidiarité et du rôle de région. On sait la liaison de destin qui existe entre la construction européenne et la construction régionale. Principe de subsidiarité et maîtrise donc de trois leviers, une politique d'infrastructure de transport, une politique environnementale, une politique de migration de travail. Troisième scénario, un monde fait de crises, de tensions, de repli et de contrôle. Les difficultés d'accès aux ressources naturelles créent une crise mondiale et on assiste à un retour des nationalismes, à une montée des protectionnismes. L'Europe ferme ses frontières, réduit et contrôle drastiquement les flux migratoires. Le repli sur soi bloque les processus de construction européenne, tant en termes d'approfondissement de l'Europe que d'élargissement. Seules les migrations climatiques vont à contre-courant de ce monde figé, mais elles s'effectuent assez largement contre la volonté des États qui s'épuisent à essayer de les contrôler. Quatrième scénario, une Europe en panne. La vieille Europe est de plus en plus concurrencée, notamment par les pays émergents, vers lesquels se délocalise l'industrie et l'épargne. L'Europe se concentre sur quelques activités à valeur ajoutée et sur des activités domestiques requises notamment par le vieillissement de la population. Ne contrôlons pas l'immigration, elle se replie sur elle-même. Et la construction européenne n'en finit pas de ne pas se faire. Absence de politique de cohésion forte de l'Union, absence de choix sur les grandes infrastructures de transport, sur les politiques migratoires. Enfin, un dernier scénario que nous avons intitulé « Cap sur le développement durable ». C'est un scénario qui se situe un petit peu entre le Bretton Woods 2 et puis l'expression d'Al Gore qui envisageait un Grenelle de l'environnement. Les crises économiques, financières, énergétiques ont contribué à l'instauration de nouvelles règles, mais surtout ont favorisé l'émergence de nouvelles valeurs. Le primat et la domination de la finance ont vécu, émergence d'un nouvel ordre financier autour du Bretton Woods 2, et les indicateurs que l'on prend en compte dans l'évaluation des actifs, eux-mêmes, évolue, on va tenir compte du développement durable, du capital humain, de la responsabilité sociale, etc. Il y a une véritable sensibilité aux problèmes d'environnement. Et dans ce scénario, l'environnement est d'ailleurs autant une exigence qu'une opportunité de la vieille Europe et des pays occidentaux pour marginaliser les pays émergents, et notamment l'Inde et la Chine, qui éprouve des difficultés d'adaptation aux contraintes environnementales. Voilà, je vous avais dit que c'était brutal, et ça l'est effectivement, tout ceci appellerait des nuances et appellerait une réflexion, mais nous avons donc ces cinq scénarios territoriaux et ces cinq scénarios de contexte. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, il faut faire une triple mise en perspective, une triple réflexion, je dirais une mise en perspective des scénarios, une mise en dynamique, et une mise en œuvre des scénarios tels que nous les avons pensés. La mise en perspective des scénarios, ça consiste à se dire comment peuvent évoluer chacun des scénarios territoriaux auxquels nous avons pensé sur Rhône-Alpes en fonction de contextes différenciés, c'est-à-dire de contextes internationaux, européens différenciés. Et c'est se dire qu'est-ce que l'on voit dans chacun des scénarios qui est à mettre en avant si on veut favoriser les évolutions qu'on estime souhaitables et si l'on veut conjurer les risques que l'on estime non souhaitables. Donc c'est pour ça que je parle de mise en perspective des scénarios. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour chacun des scénarios, on peut se poser la question, dans un contexte international donné, est-ce que ce scénario résiste bien, résiste moins bien, etc. Donc ça, c'est un premier type de réflexion que l'on peut faire. Et le deuxième type de réflexion, c'est véritablement cette réflexion sur, pour chacun d'entre eux, quelles sont les conditions à prendre en compte, quels sont les risques à éviter. Bon, je prends le scénario rose, puisque on l'avait un petit peu intitulé comme tel. On va dire, ce scénario rose, il marchera mieux dans un contexte international de marché roi, ou voire dans un contexte international qui met en avant le développement durable et qui favorise et qui s'organise autour de l'émergence de nouvelles valeurs. Mais c'est un scénario qui suppose des conditions. Une condition, c'est une première, c'est une volonté, une capacité des acteurs politiques, économiques et sociaux à partager une même vision. Une deuxième condition, c'est une capacité à tenir à la fois le bout de l'excellence économique et scientifique et de la cohésion sociale. Une troisième condition, c'est la capacité à faire émerger une gouvernance régionale susceptible de porter un projet régional et de porter un projet en termes de collaboration. Donc, si vous voulez, on pourrait revenir sur chacun des scénarios en se posant la question de savoir comment ça peut se faire, comment ça peut marcher ou comment on peut éviter tel ou tel risque. Au-delà de cette mise en perspective, nous avons essayé de réfléchir à une mise en dynamique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios qui sont tendanciels. Le scénario noir, le spectre du décrochage, c'est une sorte de tendanciel récessif. Le scénario grisâtre, chacun pour soi, c'est une sorte de tendanciel dual. Et au-delà des tendances, on peut se poser la question de savoir comment on peut passer d'un scénario à un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que on ira de toute façon vers la perspective la moins souhaitable, ou qu'au contraire, en jouant sur la gouvernance, ou en jouant sur un pilotage régional, ou en jouant en portant une meilleure attention sur la cohésion sociale, etc., on transformera le noir en gris et le gris en quelque chose de moins gris et petit à petit, on évoluera vers des couleurs plus souhaitables. Donc ça veut dire qu'il y a à prendre dans chacun des scénarios et surtout à repérer dans chacun des scénarios qu'est-ce qui peut faire basculer les choses dans un sens ou dans un autre. Et puis enfin, il y a une dernière réflexion à avoir qui est celle de savoir quelle mise en œuvre on peut penser pour ces scénarios. À quoi il faut être attentif. Je rappelle ce que nous a dit le président du CESR en commençant. Nous sommes une assemblée consultative. Nous sommes une assemblée dont le cœur de métier, c'est d'essayer d'éclairer les décideurs, à commencer par l'Assemblée régionale, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux décideurs, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de nos scénarios au moment où ils prennent les décisions qui engagent l'avenir, et Dieu sait si par exemple les décisions en matière d'infrastructure ou de formation engagent l'avenir. Il faut être attentif à quatre éléments clés. Le premier élément, c'est l'importance que l'on trouve dans tous nos scénarios, qui est l'importance du rôle des décideurs. Et finalement, ce que nous mettons en avant, vous allez me dire, ça va de soi, mais peut-être qu'il faut le répéter, c'est tout ce qui concerne finalement l'enjeu de la transversalité, de la collaboration, de la capacité des décideurs politiques, économiques et sociaux à porter ensemble un projet de territoire. Donc, c'est vrai au niveau de chacun des territoires de Rhône-Alpes, mais c'est vrai aussi pour le territoire rhône-alpin. C'est quoi cette capacité? Enfin, j'en dis pas plus, c'est véritablement le préalable à tout ce qui peut suivre. La deuxième évidence, c'est qu'il faut avoir une attention particulière à l'environnement international. Il appartient à chaque décideur d'avoir en quelque sorte un œil sur l'évolution internationale, ou plus exactement la confrontation de ce qu'il décide aujourd'hui par rapport à tel ou tel type d'évolution internationale. Comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui la dimension internationale, et quand je parle de la dimension internationale, c'est même plus tellement la dimension européenne qui, elle, devrait être considérée comme inhérente à la prise de décision. La troisième attention à qui il faut avoir, c'est une attention très certainement à ce qui a été évoqué tout à l'heure, en particulier de la Tamer, c'est-à-dire conserver une attitude de veille anticipatrice, de veille prospective. On n'enferme pas la prospective dans une section, on n'enferme pas dans un club, on n'enferme pas dans une séance d'un colloque aux premières heures de la matinée d'un samedi froid. Donc tout ceci pour dire que la prospective a besoin de diffuser dans les cercles décisionnels. Et enfin, il faut, de notre point de vue, considérer qu'il y a quatre leviers qui sont déterminants. La gouvernance, les activités, l'aménagement du territoire, la cohésion sociale. Sur la gouvernance, c'est toute la question d'une capacité de la région à agir. Ça renvoie à toute la question d'une décentralisation qui irait, je dirais, au bout de son projet et qui permettrait à la collectivité régionale d'être en situation décisionnelle, de porter une stratégie régionale. Peut-être en redécouvrant aussi cette autre faculté qu'offre la Constitution, qui est celle du droit à l'expérimentation. Est-ce que l'on peut casser l'uniformité en matière de développement territorial et de développement régional, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses qu'on tente en Rhône-Alpes parce qu'on a les moyens de le faire et qu'ils ne seraient pas tentés ailleurs? Il y a à avoir une attention particulière sur un deuxième type de questions, ce sont les activités. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir une politique industrielle qui, à la fois, s'inscrit dans l'économie de la connaissance, porte, je dirais, en même temps, une attention particulière au socle traditionnel? Comment est-ce que les services trouvent leur place dans tout ça? Comment s'articule le système de formation, le système de recherche et les activités? Comment se gère le système de formation et le système de recherche? Est-ce que, là aussi, on peut aller vers une véritable gouvernance régionale? Troisième secteur, c'est toute la question de l'aménagement du territoire. Et sur la question de l'aménagement du territoire, il y a des enjeux forts. Est-ce que l'on construit Rhône-Alpes comme une région métropolitaine, forte des villes qui la composent? Sans pour autant laisser en panne les territoires qui ne sont pas dans la sphère de ces aires métropolitaines. Est-ce qu'on construit Rhône-Alpes, et la question est une question formidablement posée, notamment à Lyon, dans une dimension interrégionale? C'est quoi le rayonnement de Rhône-Alpes et le rayonnement de Lyon? Est-ce que c'est un rayonnement rhône-alpin ou est-ce que c'est un rayonnement interrégional, voire au-delà des frontières européennes? Et puis la dernière question, dernier levier auquel il faut être attentif, c'est toute la question de la cohésion sociale qui appelle un pilotage régional qu'on ne peut pas laisser simplement aux collectivités de proximité, et qui ne peut véritablement s'organiser que si la richesse que l'on développe sur la réussite d'un projet, cette richesse, on est capable de la redistribuer sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des populations. Voilà, tout ceci, ça n'est que matière à discussion, à critique, et bien entendu, c'est le vœu que nous formulons, c'est que vous repreniez ces éléments, que vous nous disiez en quoi ça ne tient pas la route, mais en quoi ça peut-être aussi apporter des éléments pour favoriser des décisions plus pertinentes. Merci.
Bernard Pouillet, merci beaucoup. En nous connectant ainsi à l'avenir, eh bien, vous nous avez présenté un éclair de la pensée qui déchire l'obscurité de l'avenir. Vous n'avez surtout pas occulté un fait, même si vous en avez peu parlé, c'est que nous avons le présent, notre présent en héritage, ce présent qui est constitutif de toute la réflexion que vous avez menée. Ce